À Ungersheim.
Ungersheim.
En France.
Notre village est en transition.
Oui, en transition.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a plus le temps.
D'attendre.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
C'est bon, vous êtes bien installés ? Allez, c'est parti.
N'ayez pas peur, c'est que du bonheur. Moteur.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et un moteur qui ne fonctionne pas avec des énergies fossiles, évidemment. Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour.
Ce moteur, c'est celui de votre caméra que vous avez posé à plusieurs reprises durant l'année 2015 dans ce village d'Ungersheim. On le prononce bien grâce aux habitants. C'est près de Mulhouse, dans l'est de la France. Pour votre nouveau film, Qu'est-ce qu'on attend, qui sortira en salle le 23 novembre. En 30 ans, vous avez réalisé plus de 200 reportages et documentaires, dont beaucoup ont été primés, souvent pour dénoncer l'impact des grandes entreprises sur notre environnement. On se rappelle du monde selon Monsanto, mais il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce petit village de 2200 habitants ?
Eh bien, depuis 2012, je suis rentrée un peu dans une autre logique, si j'ose dire, c'est-à-dire essayer de montrer qu'il y a des alternatives au modèle dominant, économique, etc. Parce que souvent, c'est des questions qu'on me posait, est-ce qu'on peut faire autrement ? J'ai fait beaucoup de films pour dénoncer, n'est-ce pas ? Donc, c'était Les Moissons du Futur, hein, qui montrait comment on pourrait nourrir le monde sans pesticides. Et puis c'était Sacrée Croissance, qui était un documentaire qui montrait les alternatives au modèle de la croissance économique illimitée. Et j'avais fait le tour du monde pour montrer de très belles expériences d'agriculture urbaine, de transition énergétique, au Népal, au Danemark, ou de monnaie locale, au Brésil, et puis en Allemagne. Et puis j'avais terminé au Bhoutan.
Le pays de l'indice du bonheur brut.
Bonheur national brut.
Bonheur voilà. National brut.
Et un jour, le film est passé sur Arte, hein, novembre 2014, comme la plupart de mes films précédents. Et ensuite, j'ai fait une tournée, une centaine de projections dans des cinémas. Et je me suis retrouvée en Alsace, pas loin de Mulhouse, à Tannes, 300 personnes un soir. Puis il y a quelqu'un qui s'approche de moi à la fin du film et qui me dit « Tout ce que vous racontez dans votre film, nous le faisons déjà ». Alors j'étais un peu vexée quand même, parce que franchement, avoir fait le tour du monde... pour montrer qu'il y avait des alternatives.
Alors qu'il suffisait d'aller en Alsace.
Voilà. Alors j'y suis allée voir, comme on dit dans notre métier, en repérage. Et là, je me suis dit... en fait, c'est très complémentaire de l'autre film qui montrait de très belles initiatives à Toronto. Magnifique expérience d'agriculture urbaine, vous voyez. Mais là, ce qui est absolument inouï, c'est qu'on a tout sur un territoire. Toutes les initiatives qui dessinent la voie vers une société plus durable, plus juste et plus décarbonée, évidemment, et plus solidaire aussi. Et voilà, donc j'ai filmé pendant un an, de mai 2015 à février 2016. Voilà.
Et cette dynamique est insufflée par celui qui est venu vous voir, hein, qui ouais. est le maire de la ville depuis 1989.
Jean-Claude Mensch, maire d'Ungersheim. L'écologie, c'est la vie, et c'est toute ma vie. C'est ma vie, c'est celle des autres. Puisqu'on est intrinsèquement et intimement liés les uns aux autres. Une question d'altérité, c'est une question d'empathie, c'est une question d'altruisme. Et donc le cheminement pour aller vers le bien-être, le bonheur, ça peut se faire que collectivement. Tous les signes sont là aujourd'hui qui démontrent que l'humanité va dans le mur, qu'on est sur la mauvaise voie. Tout est là, l'immigration climatique, la montée des eaux, le dérèglement climatique. Enfin, que faut-il encore ? Je ne comprends pas cette forme d'aveuglement de nos politiques, de ne pas prendre en compte ce volet écologique. Quand on a pris conscience de tout ça, on est plus que militant. Il faut s'engager complètement, quoi. C'est vraiment c'est un sacerdoce.
Et s'engager complètement, savoir fédérer autour de soi, hein, Marie-Monique Robin, c'est ça que Jean-Claude Mensch a réussi à faire, notamment en lançant la démocratie participative.
Oui, tout à fait. Alors dans Sacrée Croissance, il y avait une notion qui était celle de héros local. Et j'avais constaté que pour que des projets de transition écologique aboutissent, qui vont évidemment dans le sens de l'intérêt général, parce qu'on vise à produire moins de gaz à effet de serre, etc., à réduire son empreinte écologique, il y avait toujours quelqu'un qui était le moteur. Et quand on me demande c'est quoi la caractéristique d'un héros local, un héros local c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait la partager et l'expliquer avec les gens avec qui il vit, et qui leur donne envie de s'investir dans un projet pour qu'il aboutisse, voilà. Et qui sait avaler son ego. Alors j'ai souvent coutume de dire dans les projections, les avant-premières que je fais en ce moment, que ça serait en fait la définition de l'homme politique qu'on serait censé devoir
dans
attendre.
L'idéal.
Dans l'idéal, ouais. Voilà.
Mais alors Jean-Claude Mensch, lui, est un héros.
Oui, il est un héros local, c'est-à-dire que Mensch, il est très patient. Il est capable de rassembler sur une liste électorale comme on le voit dans le film, un producteur de maïs intensif, conventionnel, comme on dit, hein, pas bio du tout, hein, qui fait 150 hectares de maïs ou de blé, parce qu'il sait qu'ils peuvent faire des choses ensemble et il parie sur le temps. Il ne va jamais frontalement contre ceux qui, a priori, devraient être opposés à une politique municipale écolo, parce que c'est ça, même s'il n'a pas d'étiquette, c'est un écolo, comme vient de le dire. Hein. Et il peut donc convaincre Aimé Moïsès, par exemple, de rejoindre la liste électorale. Donc, il est le moteur. Et
donc, il a déclenché cette initiative aussi en créant cette démocratie participative. Il y a 80 citoyens qui se réunissent régulièrement autour de 5 thématique principale. Hein. C'est ça, il a créé des commissions.
Des commissions participatives, donc, parce qu'il veut partager. Donc, ça fait partie de justement cette capacité de rassembler et puis de faire en sorte que les gens s'emparent des projets. Donc, il y a 5 commissions participatives qui proposent des projets qui sont ensuite validés par le conseil municipal, qui doit trouver les moyens pour les financer, etc. Mais tout ça s'inscrit quand même dans une espèce de feuille de route qui a été voté par le conseil municipal, et qui s'appelle 21 actions pour le 21e siècle, et qui repose sur 3 grands piliers, hein, ce qu'ils appellent l'autonomie intellectuelle. Alors là, effectivement, la démocratie participative en fait partie, c'est-à-dire c'est penser par soi-même, apprendre à penser par soi-même et collectivement. C'est-à-dire lister les problèmes ou les grands défis auxquels nous sommes confrontés, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours le local et le global hein, qui est présent dans cette commune. Hein. Donc le changement climatique, la fin des énergies fossiles, et plus concrètement, comment faire pour qu'on mange des aliments bio et de qualité et qui ne produisent pas de carbone sur la commune, mais tout ça est lié. Donc les commissions participatives sont là pour plancher sur les grandes thématiques. Donc autonomie intellectuelle, autonomie alimentaire et autonomie énergétique et économie circulaire, ça c'est les grands piliers de ce programme de transition. Et donc moi j'ai assisté à plusieurs réunions, c'est impressionnant parce que
on en voit dans votre film.
On voit des jeunes, des vieux, tout le monde se parle de comment je vais faire pour mettre des panneaux solaires sur ma maison, comment je vais faire. Vous voyez, c'est
et ça donne envie, oui. En fait. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie positive et ça donne envie. Alors, par exemple, l'autonomie alimentaire, ça passe par la relocalisation de la production. Témoignage du boulanger.
Christophe Moïsès, paysan boulanger. L'Alsace est une terre de culture très intensive qui se prête bien à la monoculture de maïs. C'est une culture qui a été et qui est toujours encore relativement rentable. Ben, pour moi, c'était arrêter ou changer parce que je ne supportais plus de rester dans ce système qui dominait et contraignait absolument toutes nos façons de faire. Je ne supportais plus de travailler pour enrichir des entreprises chimiques. Je ne voulais plus non plus travailler pour nourrir des animaux, je voulais nourrir des humains. Ça a été très difficile pour mon père de voir tout ce qu'il avait fait être remis en cause, de voir des années d'efforts et d'investissements entièrement bouleversés, modifiés. Et ça a été, pas seulement pour mon père, mais pour tout mon entourage, ça a été même vécu dans un premier temps comme une sorte de trahison. Maintenant, 5 à 10 ans plus tard, on se rend compte que ce que je fais n'est ni dangereux ni mauvais et la plupart ont changé, mon père y compris. Notre démarche, c'était une démarche au départ qu'on a entreprise seule. C'était notre transition, la transition de notre entreprise, mais la transition de nos vies, la transition de nos chemins. Et on s'est trouvé par moments très seul. Donc le fait que la commune d'Ungersheim en fasse son leitmotiv, c'était pour nous une opportunité unique d'avoir un train et un moteur comme Jean-Claude Mensch pour porter ce projet. Et évidemment, les courants et les énergies se sont additionnés d'une façon très positive et très constructive. Pour moi, le plus beau symbole de la transition, c'est cette confrérie ou cette unité que ça a créée entre une bonne partie des habitants. Une sorte de nouvelle identité, de nouvelle fierté qui n'existait pas avant et qui est maintenant assez rare dans les villages.
Et oui, Marie-Monique Robin, c'est pas facile hein, de changer les habitudes, comme vient de le dire Christophe Moïsès, mais à Ungersheim, c'est bien plus vaste hein, que simplement le boulanger, cette relocalisation de l'alimentation. C'est l'idée de construire une filière de la graine à l'assiette.
Oui, tout à fait. Alors Christophe, il est agriculteur en fait, et fait lui-même ses céréales de variété ancienne qui datent avant le 19e siècle. Et comme il dit, c'était l'époque où où les blés ne rendaient ni obèses ni allergiques. Donc, c'est des variétés très anciennes. Et avec sa femme, ils transforment et ils ont un moulin et ils font le pain. Donc,
je dois dire qu'en regardant le film, on a envie de goûter.
Hein. Ah oui, oui, bah, vraiment délicieux ces pains, vraiment. Et les blés magnifiques, des blés qui font 2 mètres de haut, il y a des rouges, des noirs, enfin des bleus, on connaît plus tout ça. Hein, voilà. Oui, donc la graine à l'assiette, c'est l'un des piliers de ce programme de transition. Donc, il s'agit de tendre l'autonomie de la commune pour qu'elle produise tous les aliments dont elle a besoin pour se nourrir et en qualité évidemment bio. Hein. Donc c'est à la fois une
plus
ferme.
Plus de pesticides du tout depuis 2006.
Ah, bah, ah oui, de toute façon, plus de pesticides, plus du tout dans la commune. Hein. Tout est désherbé, soit à la main ou de manière mécanique. Hein. Et donc c'est à la fois une ferme urbaine, 8 hectares, en réinsertion. Donc ils ont mis à disposition un terrain, en fait, la commune a mis à disposition un terrain à une association qui fait du. C'est un jardin de cocagne, de la réinsertion.
Un jardin du trèfle rouge.
Voilà.
C'est un joli nom.
C'est très joli. Et puis, on voit comment aussi, ce sont des gens qui viennent, qui sont des chômeurs de longue durée, etc., apprennent le maraîchage. Et c'est aussi un outil magnifique. Voilà. Puis après, ils font des paniers, 400 paniers par semaine. Ils alimentent aussi la cantine, hein, qui est 100% bio, une cuisine collective. Qui fournit des repas bio, 500 repas par jour. Hein, c'est quand même énorme.
Pas uniquement pour le village d'Ungersheim, voilà. Les communes autour en profitent.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est aussi des emplois créés, tout ça, bien sûr. Et puis, il y a une régie agricole. Alors, il faut savoir qu'en France, il n'y a que 3 villes qui ont une régie agricole.
Alors, qu'est-ce que c'est une régie agricole ?
Une régie agricole, ben, c'est la municipalité qui a donc, là, en l'occurrence, embauché un jeune que j'aime beaucoup, qui est aussi un personnage étonnant dans ce film, qui était vétérinaire. Et. Qui a décidé de changer de métier parce qu'il en avait marre de faire des piqûres aux vaches, comme il dit, aux vaccins. C'était pas sympa pour ça que j'ai fait ce métier. Donc maintenant, il s'occupe de la régie agricole. Donc, il doit s'occuper de planter des tomates, des oignons, etc., sur des terrains de la commune qui sont ensuite livrés aux habitants de la commune, donc à prix quasiment coûtant, une fois qu'évidemment, on a payé son salaire, etc., des charges. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde peut manger bio à un prix défiant toute concurrence. Et ça complète, évidemment, la ferme urbaine. Il y a aussi une conserverie. Ça, c'est très étonnant aussi, parce que donc, évidemment...
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Voilà, les tomates, par exemple, à un moment, des tomates abîmées, parce que vous savez, on ne peut pas les mettre dans les paniers, parce qu'on a... Eh bien, on fait des conserves avec, qui sont vendues aussi, dans une épicerie solidaire qui va s'inaugurer bientôt, parce que moi, quand j'ai filmé, c'était le dernier projet qui restait à mettre en place. Voilà. Donc, une conserverie. Il y aura bientôt une malterie, d'ailleurs, aussi...
Pour faire
bio,
de la bière.
Ouais, pour faire de la bière, voilà. Donc l'idée, c'est que cette commune soit autonome du point de vue alimentaire. C'est pas rien, parce que je rappelle qu'on estime en général que les villes françaises, par exemple, mais européennes en général, ont au plus 2 jours d'autonomie alimentaire.
Ça même Paris.
À Paris, en particulier Paris. Ça veut dire qu'une ville comme Paris dépend du pétrole pour se nourrir. C'est quand même une aberration. Et on estime aussi...
Parce qu'on importe massivement notre alimentation.
Bien sûr, parce qu'on ne produit plus rien dans la ville. Hein, alors que le maraîchage, le mot maraîchage vient du marais. Hein, et moi, j'ai découvert ça tout à fait fortuitement en travaillant sur Sacré Croissance. Les maraîchers de Paris, qui étaient dans le quartier du Marais, eh bien, avaient des techniques de production agroalimentaire extraordinaires, hein, qui étaient un modèle partout dans le monde. Donc voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'un aliment qu'on achète dans un supermarché, on estime, c'est la communauté européenne qui a donné ces chiffres, qu'il parcourt en moyenne 3000 km entre le lieu de production et l'assiette du consommateur. Donc vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes de gaz à effet de serre. Donc en fait, on est un modèle agricole qui produit plein de gaz à effet de serre. Hein, et sans parler de la qualité des aliments, évidemment. Donc l'idée, c'est que les territoires, et c'est ce que montre Ungersheim, c'est possible, essaient de retendre, je dis tendre parce qu'on ne sera jamais 100% autonome quand on est dans une commune, mais au moins aller vers cet objectif, et on le voit que c'est possible.
Et puis s'émanciper des énergies fossiles, c'est évidemment développer les énergies renouvelables. Alors là, par exemple, à Ungersheim, ils ont décidé de reconvertir les terrains du village, dont l'activité principale a été, comme de nombreux villages d'Alsace, l'exploitation d'un minerai, la potasse qui servait à faire de l'engrais, et bien de reconvertir ces territoires justement pour y implanter des énergies renouvelables.
Parmi les 21 actions, il y en a une qui a été difficile à mettre en œuvre. D'abord parce que c'est un terrain qui est une friche minière, donc c'était du déchet. Et nous, donc particulièrement moi en tant qu'ancien mineur, nous voulions une reconversion heureuse, déjà une transition avant l'heure de ce bassin potassique, et donc une installation qui était exemplaire et qui faisait vitrine.
Les mines d'Alsace ont vendu les terrains. Et donc la commune d'Ungersheim a pu racheter les 5,5 hectares. Et on a opté pour faire une centrale photovoltaïque avec une zone artisanale. Et donc, appel d'offres et ainsi de suite. Et puis c'est M. Baumgartner qui a eu le marché.
Alors c'est une installation 5,3 MW, il faut compter à peu près 17 millions d'euros. Par contre, je n'ai pas réalisé le projet seul dans mon coin. Je me suis associé à un partenaire qui, lui, a levé les fonds nécessaires pour réaliser le projet.
La transition énergétique, il faut la faire. C'est vrai qu'être précurseur, c'est bien. Et puis, si un petit peut le faire, pourquoi les grands, les États ne peuvent pas le faire? Que ça commence des départements, régions et au niveau national. Donc, toujours espérer que ça fasse boule de neige.
C'est la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Alsace, ce qui permet d'approvisionner en courant électrique, hors chauffage et hors industrie, 10 000 habitants.
Et voilà comment on produit quand même de l'énergie pour 10 000 habitants, alors que Ungersheim, c'est un village de 2200 habitants.
Tout à fait, et sans parler du fait que maintenant, ils ont installé sur la plupart des toits de la commune des panneaux solaires en autoconsommation. On voit dans le film comment ils ont fait avec un partenariat avec un lycée de la région, ce qu'on appelle le cadastre solaire. Hein. Ça veut dire que si on est à Paris, par exemple, on pourrait se balader dans toutes les rues et mesurer la capacité, le potentiel solaire de chaque toit. Alors on tient compte de l'exposition, évidemment, il vaut mieux que ce soit au sud, et puis de la place disponible, hein. S'il y a une cheminée ou je ne sais pas quoi. Enfin. Mais, et le résultat, c'est qu'à Ungersheim, si tous les toits bien exposés étaient équipés de panneaux solaires, ce qu'ils sont en train de faire, ils pourraient couvrir 70% de leurs besoins.
Donc ça, c'est un futur chantier, j'imagine.
Ben, c'est magnifique. Ben, c'est en cours, là. Hein. C'est magnifique. Et on voit d'ailleurs, c'est un partenariat avec Greenpeace Suisse qui a monté ce projet donc, pour associer des jeunes. Donc, il y a 12 000 jeunes qui ont sillonné les rues de Suisse. Et ils ont mesuré les toits. Et en fait, ça permettrait en Suisse, par exemple, on apprend de fermer 3 centrales nucléaires si tous les toits qui ont été mesurés étaient équipés. Donc, vous voyez, on sait ce qu'il faut faire. Si on voulait changer de cap, et notamment évidemment réduire la consommation, parce que ça c'est très important, hein, la sobriété énergétique, mais remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, on voit que c'est à portée de main et qu'il ne manque qu'une seule et vraie volonté politique pour lancer ces chantiers partout. Voilà.
D'où le titre « Qu'est-ce qu'on attend ?»
Oui, « Qu'est-ce qu'on attend ?» C'est vrai, parce qu'avec toutes ces mesures, alors ils ont aussi un cheval, vous savez, qui emmène les enfants à l'école, ça permet d'équiper.
C'est énorme, un cheval, ça paraît rigolo comme ça, mais en fait, ils économisent, du coup, au lieu de faire le transport scolaire avec un bus, c'est avec le cheval.
Voilà, ou les parents qui prennent leur voiture, donc c'est l'équivalent de 6 000 km en voiture, enfin, qui sont économisés. Ils ont une monnaie locale, ils ont un éco-hameau, le radis. Un éco-hameau, ils encouragent la construction de maisons passives, intergénérationnelles, où on partage les équipements, etc. Et tout ça, le résultat est quand même assez spectaculaire, parce qu'on voit comment, finalement, en 10 ans, ils n'ont pas augmenté les impôts locaux. Ils ont économisé 120 000 euros en frais de fonctionnement. Par exemple, la piscine avant était chauffée au fioul. Eh bien maintenant, c'est des panneaux solaires. Ben voilà, on fait des économies.
Donc il y a un investissement au départ, mais on s'y retrouve.
Ah oui, et rapidement, en fait. Et puis, évidemment, ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'avant. Et ils ont créé ou contribué à la création d'une centaine d'emplois, ce qui est énorme sur une commune de 2200 habitants. Et des emplois pérennes, parce que quand vous relocalisez la production alimentaire, évidemment que ces emplois ne sont pas délocalisables, parce que tout le monde, vous, moi, on a besoin de manger 3 fois par jour. Et donc, si on se disait il faut que chaque territoire, quartier, ville, village, organise son autonomie alimentaire, ce sont des emplois absolument pérennes, concrets.
Alors, vous parliez de l'éco-hameau. Je vous propose d'écouter un extrait.
Muriel Thomas, copropriétaire de l'éco-hameau. J'ai entendu parler d'Ungersheim la première fois en lisant tout simplement un article dans la presse locale. J'ai découvert que Ungersheim était dans une phase, on peut appeler ça, de village en transition, qu'ils souhaitaient justement construire un éco-hameau et qu'ils recherchaient des familles et qu'ils organisaient une réunion publique pour tout simplement expliquer le projet. C'était un moment assez fort parce que forcément j'étais dans l'attente d'informations complémentaires sur le projet. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'en parlais récemment avec mon mari, j'étais convaincue que les réponses qu'on allait nous apporter correspondaient vraiment à notre envie, en fait, de construire différemment. À la fin de la réunion, il est vrai que j'avais le sourire et que je me suis dit, là, je pense qu'on va s'accrocher. Notre rêve n'est plus si loin que ça.
La mairie a acheté le domaine, qui était la propriété d'un riche industriel suisse. Et pour éviter qu'un lotisseur s'en empare,
on s'est endetté et puis on a racheté le domaine. Et on voulait en faire quelque chose de particulier, et donc essentiellement tourner vers l'habitat de demain. Et l'habitat de demain, on a trouvé des modèles en Angleterre, encore une fois. Donc BZ, hein, Beddington, les 10 principes qui reposent essentiellement sur le zéro carbone.
Donc on fait attention à l'énergie. Donc premièrement, on en consomme le moins possible en s'isolant très bien. Les murs sont des très bons murs, 36 cm de paille, bardage bois à l'extérieur, fibre bois à l'intérieur. Donc on va consommer très très peu. Après, bon, bien sûr, on récupère l'eau de pluie pour le jardin, pour les machines à laver communes, chauffées au solaire. Bon, les matériaux sont aussi naturels et locaux, par principe.
Donc, Raph, il faut qu'on fasse une commande spéciale là, de petites bottes pour la maison nature et paysanne d'Ungersheim. Donc, le maire vient de me passer la commande. Ces bottes-là, on ne les fait plus aujourd'hui. On les fait exceptionnellement pour la maison et nature d'Ungersheim qui nous a demandé ça et qui voulait de la paille d'Ungersheim pour la maison d'Ungersheim. Voilà.
C'est plus logique que d'aller chercher de la paille à 300 km pour faire une isolation à côté de chez nous, quoi.
Et la paille a toujours existé dans les constructions d'antan, quoi, parce que c'était un produit qu'on avait, quoi. Et ici, en plaine, on faisait des torchis avec paille et eau et terre.
Et voilà, Marie-Monique Robin, on revient à la paille et à la terre, mais version moderne, hein, c'était archaïque.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, l'architecte qui construit l'éco-hameau, c'est très intéressant, hein. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne se chauffe quasiment pas en Alsace. Donc, c'est quand même incroyable parce qu'il fait très froid. Donc, maison passive, isolation avec des murs en paille qui font 32 cm. Ensuite, torchis, vraiment des techniques qui s'inspirent de celles du passé, mais en incluant évidemment tout ce qu'on a appris depuis. Et on découvre finalement, parce qu'il y a une entreprise qui vient mesurer l'étanchéité de ces murs, que c'est 3 fois plus performant que n'importe quel produit chimique qui est censé faire l'isolation et que c'est complètement high-tech. En fait, c'est le futur. Et il va falloir revenir à ces techniques de construction qui sont très isolantes. En plus, il y a un confort à l'intérieur. Enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, au niveau de l'odeur, au niveau de tout. Hein. Et ça, c'est un beau message parce que c'est aussi des emplois qu'on va pouvoir recréer dans plein de filières, hein, et partout dans le monde. Voilà. Parce que c'est des savoirs qu'on a en partie perdus, pas complètement, mais qu'il va falloir remettre en avant.
Oui, et puis répandre de plus en plus. Alors voilà pourquoi Rob Hopkins, hein, le fondateur du mouvement des villes et territoires en transition, qui regroupe aujourd'hui quand même plus de 2000 initiatives dans une cinquantaine de pays, est venu voir ce curieux village français.
1, 2, 3.
Certaines personnes prétendent qu'aller vers un avenir faible en carbone, plus résilient et plus local, c'est un retour en arrière, un refus du progrès. Ce que nous voyons ici prouve que cet argument est ridicule. Notre avenir a besoin de citoyens autonomes et actifs, mais aussi de leaders inspirés et courageux, prêts à prendre des risques. Et ici, aujourd'hui, nous avons les deux. L'histoire de Ungersheim est une histoire nationale, car elle est remarquable. Merci. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Ungersheim, c'est la naissance d'une nouvelle économie, une économie qui est ancrée localement, culturellement et dans la résilience. Elle a besoin de concepteurs, de juristes, de mécaniciens, mais aussi de spécialistes en panneaux solaires, de brasseurs artisanaux, de constructeurs de maisons écologiques et de producteurs de bons aliments. Je dois dire que si j'avais 18 ans, j'aurais tellement de choix que ma tête exploserait d'excitation.
Marie-Monique Robin, l'objectif, c'est évidemment que ce genre de démarche implique le plus grand nombre, hein, le plus grand nombre d'habitants à Ungersheim et le plus de villes et de villages possible.
Oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle quand même, hein, c'est ça qui m'a beaucoup impressionnée. Moi et mon équipe, parce que je voyage toujours avec à peu près le même caméraman, le même ingénieur du son qui ont fait avec moi le monde sur le Monsanto. On a fait beaucoup de tours du monde, etc. Et nous, à chaque fois qu'on revenait à Ungersheim pendant un an, on était allé 7-8 fois. En tout, on a passé presque 6 semaines là-bas. Eh bien, on était content de revenir parce qu'il y avait une belle dynamique, très enthousiasmante, qu'on voyait en marche, quoi.
Le plaisir de faire ensemble.
Ah ouais, vraiment, le plaisir de faire ensemble, le lien que ça crée, des gens qui sont heureux et qui parlent très bien justement de cette expérience de collective. Et ça, c'est vraiment formidable, quoi. Et on souffre tellement aujourd'hui, à la fois du délitement du lien social, de la solitude, enfin, et tout, vous voyez, entre
ceux... Et puis ça redonne de la crédibilité aux politiques.
Ah oui, bien sûr. Moi, j'insiste souvent en disant que ce film est un hommage aux lanceurs d'avenir, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'un autre monde est possible ici et maintenant, mais aussi un hommage aux élus locaux qui peuvent faire beaucoup sur leur territoire. Et j'incite beaucoup les citoyens, quand je fais des projections débat, à aller les voir, les élus locaux, et à leur montrer le film, et à leur dire qu'est-ce qu'on attend, on y va. Parce qu'ils peuvent avoir un très beau rôle. Et ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Parce que par les temps qui courent, voilà, les élus, vous savez, il y a une grande défiance par rapport à la classe politique, et y compris la classe politique locale. Et là, on voit aussi comment, ensemble, on pourrait... amorcer un changement qui vraiment est bon pour la planète et bon pour les individus qui y participent. Et ça, c'est super.
Qu'est-ce qu'on attend ? On sortira donc en salle le 23 novembre prochain en France et puis sans doute plus tard ailleurs. Merci Marie-Monique Robin d'être venue dans C'est pas du vent. Demain, nous verrons pourquoi l'environnement est la thématique dont on ne parle pas du tout durant la campagne présidentielle américaine et s'il y a des raisons de s'en inquiéter. Et nous verrons ce que va changer l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat et ce que l'on peut attendre de la COP22 qui s'ouvre ce lundi à Marrakech. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.
Appelez-nous, exprimez-vous.